RCF.
Laurence Villedieille, vous publiez le roman Au bout de compte, qui est paru aux éditions Biron. Ce livre est très bien écrit et il explore les replis obscurs de l'âme humaine. Laurence, sans déflorer le roman, vous pouvez nous présenter cette œuvre assez sommairement ?
Alors en fait, c'est un livre qui est construit en deux parties qui se répondent l'une l'autre.
Et d'ailleurs, vous attrapez bien le lecteur parce qu'il a l'impression, quand il y a la deuxième partie, qu'il entreprend une deuxième histoire. Et puis c'est à la fin qu'il se rend compte que les deux histoires se raccordent.
Et oui, en fait, c'était ça, en fait. L'idée, c'était que la première partie, en fait, nous permet de rencontrer Claire, qui a été abandonnée par ses parents quand elle avait 12 ans et qui retrouve par hasard un ami intime de ses parents, avec qui elle était très très proche quand elle était enfant. Et à travers cette rencontre, elle tente de trouver des réponses, en fait, qui lui permettent d'éclairer le départ de ses parents et de se mettre en paix avec le traumatisme qu'elle a vécu. Et dans un second temps, le récit nous amène à découvrir finalement ce que ses parents sont devenus suite à ce départ volontaire et à livrer en fait un récit du point de vue de la mère de Claire, qui éclaire en fait l'abandon qui a été commis.
C'est le grand énigme de votre livre. Il y a un mystère et à la fin, vous le dévoilez. Mais on ne va pas le dévoiler, on ne va pas le dévoiler
maintenant. Non, surtout pas.
Laurence Villevieux, c'est votre premier livre ?
Alors, ce n'est pas tout à fait mon premier livre parce que j'avais déjà écrit un petit essai philosophique, on va dire, très, très humblement, mais c'est comme ça que ça s'appelle, que j'avais publié par mes propres moyens, qui s'appelait Déambulation, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Déambulation intérieure, et qui m'a donné en fait l'élan d'écrire encore et d'honorer cet appel qui est en moi et que je ne peux plus maintenant ignorer.
Ce goût pour l'écriture, cette vocation pour l'écriture, ça remonte loin dans votre pensée ?
Depuis toujours, je suis tombée amoureuse des mots, en fait, dès que j'ai su parler et écrire. Les livres ont toujours été quelque chose d'essentiel pour moi et je crois que ça fait partie de ma vie depuis que je suis sur Terre, en fait.
Et néanmoins, vous avez pris une activité professionnelle qui vous éloigne de la littérature, de l'écriture.
Alors en fait, j'ai passé un bac littéraire quand même, donc je me suis pas reniée complètement pendant très longtemps. Et puis après, voilà, il y a eu des péripéties de la vie qui ont fait que je suis partie effectivement un métier basé autour des chiffres. C'était pas vraiment une vraie rupture, c'est qu'en fait ces deux univers-là cohabitaient en moi aussi. Je crois que j'avais envie d'honorer en fait toutes les facettes que mon être avait envie d'exprimer. J'ai pas pour autant renié mon amour pour l'écriture et la littérature. J'ai continué à beaucoup lire, j'ai continué à écrire, j'ai continué à nourrir.
Même en période professionnelle, vous étiez comptable.
J'étais comptable, oui.
Passé un certain temps au travail.
Ben oui.
Vous avez eu le temps libre pour vous consacrer à l'écriture, à la littérature ?
Alors, la littérature, oui. Disons que, bon, en plus, j'ai eu de longues années de célibat, donc je faisais un petit peu ce que je voulais de mes soirées. Donc, les passer plongés dans les livres, ça posait de problème à personne. Donc, je pouvais vraiment me régaler avec ça. L'écriture, ça a été plus par... ça a été des périodes, en fait. Il y a eu des périodes où je continuais à écrire, des périodes où j'ai arrêté. Ça dépendait de ce que mon âme avait envie d'exprimer, en réalité.
Vous avez confié que... Un tournant dans votre vie a été la naissance de votre fille.
Oui.
Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Eh bien, je crois que les circonstances de la naissance de ma fille ont été extrêmement violentes pour moi.
Ça s'est mal passé
Les conditions, oui, ont été très difficiles. Au moment de la naissance. Et je crois que c'est comme si ça avait cassé en fait toute la carapace que je m'étais construite au fil des années. Et
vous êtes découverte vulnérable.
C'est ça. Je me suis découverte vulnérable et j'ai découvert en fait que le personnage, parce que j'en étais pas consciente à l'époque, mais que le personnage que je jouais jusqu'à présent, c'était un personnage en réalité. Que derrière, il y avait une vulnérabilité, il y avait des fragilités, il y avait des blessures qui avaient été mises sous le tapis, il y avait tout ça. Et la naissance de ma fille a fait que ce moment de fragilité, en fait, a été une vraie force et un vrai cadeau parce que il m'a fallu me reconstruire.
Parce qu'un comptable dans une entreprise, c'est quelqu'un qui sécurise, qui dit sont les comptes, où en année, comment se porte l'entreprise. Donc vous assumiez ce rôle d'être protecteur, de soutien de l'entreprise.
C'est vrai qu'il y a cette part en moi, effectivement, de la personne qui prend sur ses épaules, qui monte le chemin, qui rassure, qui accompagne, il y a toujours eu ça en moi. Mais c'est pas pour autant qu'on est forcément soi-même indemne et rassuré à l'intérieur. Oui.
Donc, à l'occasion de l'échange sur votre fille, il s'est passé quelque chose, et le fait d'avoir un enfant, ça change de dimension, on devient autre.
Ah ben, la première chose que j'ai appris au moment de la naissance de ma fille, et ça s'est fait dans les 24 heures, ça a été la conscience du moment présent. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée avec ce bébé dans les bras et que je me suis projetée par rapport à tout cet avenir que j'allais devoir accompagner et toute cette progression que j'allais devoir accompagner, j'ai trouvé ça tellement terrifiant et tellement énorme comme responsabilité que je me suis tout de suite replacée sur l'instant présent en me disant « Aujourd'hui, on va faire ce qu'on peut et on verra demain ».
Alors c'était déjà une philosophie de vie qui s'imposait à vous.
Ben oui, ça a été ma première rencontre avec cette notion-là.
La naissance de votre fille est une borne dans votre vie.
Oui.
Elle marque une rupture entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Alors, comment ça a débuté? Comment ça s'est passé?
Les circonstances de la naissance de ma fille ayant été compliquées, il a fallu mettre en place assez rapidement et dans les années qui ont suivi des façons d'accompagner certains traumatismes, certaines difficultés.
Pour elle,
alors pour moi, ça, pour ce qui me concernait, moi, j'ai eu recours à des méthodes traditionnelles. Hein, un bon psychothérapeute m'a aidé dans un premier temps. Et pour elle, oui, il a fallu trouver des façons d'accompagner ses difficultés physiques. Autrement que de manière conventionnelle, parce que la réponse conventionnelle, moi, ne me satisfaisait pas.
Du côté des thérapies conventionnelles, vous ne trouviez pas votre compte?
Je me sentais pas appelée à aller taper à ces portes-là, en fait. Je crois que...
C'est vous qui avez fait le choix.
Oui, c'est moi qui ai fait le choix.
Qui a vu l'intuition que la solution se trouve ailleurs.
C'est-à-dire que j'avais déjà pressenti qu'il y avait un lien très important entre l'émotionnel et le corps,
oui.
À travers mes propres expériences. Et comme je savais que dans les difficultés que rencontrait ma fille, il y avait une grosse part d'émotionnel, naturellement, j'ai voulu trouver une méthode alternative qui fasse le pont en fait entre ces deux univers-là, qui permette une vraie guérison et pas juste un espèce de pansement qu'on mettrait sur un symptôme qu'on chercherait à éteindre sans chercher à en comprendre l'origine.
Nous sommes en compagnie de Laurence Vivier-Vieille qui publie Au bout du compte. Laurence Vivier-Vieille, donc, quand votre fille est née, ça a été pour vous une rupture. Il y a l'ancienne vie et la nouvelle vie. Et vous êtes projeté alors dans les thérapies alternatives.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé un accompagnement qui avait du sens et qui aidait énormément la fille, qui était le shiatsu. Donc, je l'amenais recevoir des soins en shiatsu et j'ai été tellement bluffée, impressionnée par le travail que ça lui permettait de réaliser alors qu'elle était toute petite et qu'elle pouvait rien verbaliser puisque voilà, trop jeune, que je me suis dit à un moment donné, à force de l'accompagner et d'observer ce qui se passait, l'idée a germé en moi que j'aurais vraiment très très envie d'apprendre à faire ça en fait.
Et vous avez été conseillé ou c'est de vous-même d'instinct que vous avez trouvé ceci?
Non, ça c'est. J'ai eu cet élan. En général, je suis quelqu'un qui honore ses élans, donc j'ai cherché. Et puis, quand les choses doivent se faire, de toute façon, la vie met en place ce qu'il faut pour que ça puisse se réaliser. Et j'ai trouvé une formation, et j'ai trouvé tout ça que je faisais en parallèle de mon temps de travail.
Et... Parce que vous travailliez à l'époque.
Oui, je travaillais. J'étais comptable, oui, tout à fait.
Vous êtes entré dans le monde des thérapies alternatives. Ça représente de quoi ces thérapies alternatives? Par rapport au conventionnel. Conventionnel. Alors, traite un symptôme, un organe.
Le conventionnel, il s'adresse beaucoup au corps, en fait, en réalité. Et surtout, il est effectivement, comme vous le dites très justement, dans cette logique qu'on arrive avec un symptôme, qu'il faut éteindre ce symptôme et repartir dans sa vie d'avant, comme si pratiquement il ne s'était rien passé, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais convaincu. C'est quelque chose qui ne m'a jamais convaincu.
Quoi, vous n'étiez pas convaincu?
Parce que je pressentais que la réponse, elle n'était pas là, que éteindre un symptôme sans chercher à comprendre d'où il venait, que le symptôme en fait était un messager, et que si on n'entendait pas la voix qui cherchait à se faire entendre à travers ce message, on passait à côté de quelque chose en réalité. On cherchait juste à la bâillonner, mais qu'on cherchait pas à l'entendre. Et puis il y avait toujours en moi cette notion qu'on était à la fois dans deux mondes, le monde invisible qu'à l'époque j'appelais l'émotionnel, et puis le monde visible qui était le corps. Et il fallait absolument trouver un pont entre ces deux aspects-là.
Qu'est-ce que vous apportez dans la connaissance de la relation entre le corps et l'esprit?
Disons que j'avais déjà fait moi l'expérience de tout ça, puisque je suis quelqu'un qui somatise énormément. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon cœur, mon corps tout de suite il en parle. Donc je savais ça, mais ce que je savais pas c'était comment en fait, je crois que ce que je cherchais, c'était à agir sur la partie invisible. C'est pour ça que les soins énergétiques m'intéressaient. Je voulais pas travailler sur le corps, je voulais travailler sur l'autre dimension, en fait, qui était pour moi la dimension qui était la source, en fait, de tout.
Vous êtes livré à une grande analyse de vous-même.
Je crois que j'ai toujours été en analyse de moi-même depuis que je sais réfléchir de toute façon.
Vous êtes votre propre docteur, votre propre psychologue.
Tout à fait, tout à fait.
Votre accompagnant.
Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que je ne me sois pas fait aider, à certains moments de ma vie, mais.
Vous avez découvert le monde de l'énergétique.
Ouais.
C'est quoi?
Le monde de l'énergétique, déjà, je me souviens de la première phrase que j'ai entendue quand je suis arrivée à la formation Shiatsu, et c'est une phrase qui m'a ravi le cœur immédiatement, où on m'a dit, bienvenue dans le monde de la subjectivité. Et ça.
Alors que vous étiez dans l'objectivité.
Exactement, exactement, exactement. Et du coup, c'est comme une espèce d'autorisation, en fait, qu'on m'a donnée, que moi, j'avais du mal à me donner, en fait, moi-même, et que je suis venue chercher à travers cette pratique. Et j'ai découvert, en pratiquant, que j'avais de l'énergie dans les mains, que je pouvais soigner, que je pouvais guérir. Et surtout, ce que j'ai découvert au niveau de mon âme et de mon cœur, c'est que quand je faisais ça, je me sentais exactement à ma place.
Est-ce que c'est un don réservé à certaines personnes, ou est-ce que tout le monde l'a plus ou moins?
Non, je pense pas que ce soit une histoire de don. Je pense qu'on est tous capables d'agir sur ce que j'appelle le monde invisible. Ça, j'en suis intimement convaincue. Je crois juste qu'il y a des gens qui se sentent appelés à le faire et pas d'autres, tout simplement. Parce que je crois qu'on est là pour tenir certains rôles, peut-être, ou accomplir certaines missions et que, mais fondamentalement, on est tous capables de travailler sur l'invisible. Ça, j'en suis absolument certaine.
Donc, cet invisible, donc, il agit sur le corps.
Cet invisible, il agit partout.
Et quelle est sa relation avec l'esprit?
Alors déjà, il faudrait définir ce que vous entendez par esprit.
Le psychisme, le spirituel, le psychisme.
Le psychisme, je le relierai à la dimension émotionnelle, en fait. Qu'on va soigner de manière conventionnelle quand on va voir un psy ou quand on va voir un analyste. Le ressenti émotionnel, en fait, est de l'énergie qui cherche à s'exprimer, en fait. Certaines situations nous mettent face à nous-mêmes et on n'a pas forcément sur l'instant les ressources pour permettre à cette énergie de se déployer, pour permettre à cette énergie de se libérer. Donc on ferme, on bloque, on stocke ce qu'on appelle des traumas, en fait. Il y a une expérience qui nous est donnée à vivre, qui nous chamboule, qui nous bouleverse, qui nous touche au plus profond. Et là, au moment où elle a lieu, cette expérience, on n'a pas les ressources pour intégrer, en fait, l'expérience par rapport à tout ce chamboulement que ça nous fait vivre à l'intérieur. Donc on stocke, on met ça de côté.
Parce que nous sommes imprégnés d'une énergie vitale.
On n'est que ça.
Qui nous C'est la vie, finalement.
C'est ça. Moi, j'appelle ça la vie, ouais, de toute façon.
La vraie vie, la vie, ben, c'est pas ça. La vie biologique qu'on voit à travers le microscope.
Non.
Au travers des appareils qui sont dans les salles d'opération. C'est la vraie vie.
C'est un flux. C'est un souffle, c'est quelque chose qui passe à travers nous, qui nous met en mouvement et qui soutient et qui sous-tend en fait tous les mécanismes biologiques qu'on peut voir sous un microscope ou qu'on peut mesurer sur un oscilloscope ou sur un, bien évidemment, mais avant tout il y a ce souffle en fait, il y a cet élan, je sais pas comment expliquer ça.
Et ça, vous l'avez senti en vous depuis toujours, ou ça a été la naissance de votre fille qui vous l'a révélé?
Je crois que la naissance de ma fille m'a mise en mouvement vers la rencontre de ces choses-là, et que ce faisant, ça m'a permis en fait de contacter de plus en plus de choses à l'intérieur de moi. En fait, tout était là, bien évidemment, dès le départ. Mais c'est vrai que mes ressentis se sont affinés, mon champ de conscience s'est élargi, mes yeux intérieurs se sont ouverts, et c'est tout un dialogue en fait qui s'est mis en place entre moi et moi. Et qui m'a permis, ben oui, d'aborder toutes ces dimensions-là. Et si elles étaient en moi, elles étaient partout, de toute façon.
Il y a un dialogue entre vous et vous, mais il y a aussi un dialogue entre vous et les autres, puisque vous avez pratiqué un peu.
Alors, oui, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai toujours été mon propre thérapeute et je me suis toujours auto-accompagnée. Et quand j'ai commencé, en fait, à faire du soin énergétique pour accompagner les gens qui me sollicitaient, au début, il n'y avait que du soin énergétique, je ne me servais que de mes mains. Et puis, j'ai bien vu, parce que je le savais, en fait, au fond de moi, par expérience, que ça ne suffisait pas. Les gens avaient besoin d'un espace de parole, les gens avaient besoin de mettre des mots sur ce qui se passait à l'intérieur d'eux, les gens avaient besoin d'expliquer pourquoi ils étaient venus et qu'est-ce qu'ils cherchaient à régler, à guérir, à rencontrer. Donc il y a eu cet accompagnement supplémentaire qui s'est mis en place autour d'un espace de parole. Et là, c'était toute ma propre expérience, en fait, que je partageais. J'étais pas en train de délivrer un savoir théorique. Je parlais de, c'était mes cellules, en fait, qui vibraient, c'était mes cellules qui parlaient. Et donc, il y avait une authenticité qui permettait à l'autre, de se reconnaître, en fait, finalement.
Vous avez la sensation de communiquer quelque chose, de donner votre énergie et finalement en avoir moins?
Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout, au contraire.
Plus on en reçoit.
Je sais pas trop comment vous l'expliquer de manière cartésienne, mais ce que je sais, c'est que ça, j'avais déjà constaté ça quand j'étais plus jeune. Des moments, vous savez, où vous êtes vous-même préoccupé, où vous êtes perdu dans vos problèmes, où vous avez l'impression que vous avez plus rien à donner, que vous avez plus rien là dans les poches. Et puis, il y a quelqu'un qui sonne à votre porte, qui lui-même est dans une situation difficile et qui vous sollicite parce que vous êtes une amie, parce que elle sait que vous avez une oreille qui écoute. Et là, d'un seul coup, il y a cette ressource, en fait, que vous pensiez même plus avoir pour vous-même, qui se mobilise au service de la personne qui vient vous solliciter. Et au final, vous vous rendez compte que quand cette personne repart, que finalement, vous pensiez ne plus rien avoir à l'intérieur, et en réalité, vous avez trouvé encore des ressources pour aider cette personne, et qu'en réalité, cette personne, dans sa demande, elle vous a nourri, en fait, parce qu'elle vous a permis de contacter ça.
C'est une source inépuisable, c'est-à-dire, oui. Il y a un don, il y a un va-et-vient entre les personnes.
Il ne peut pas y avoir de don, on ne peut donner que ce qu'on reçoit, de toute façon, et enfin, c'est un vase communicant, oui.
Thank you.
Nous sommes en compagnie de Laurence Villevieille qui publie Au coup du compte, un roman qui parle des affres de la vie. Laurence Villevieille, si vous voulez, nous allons parler de votre roman parce que vous avez voulu le mettre en mots, ce que vous avez vécu. On a l'impression que le personnage principal s'appelle Claire.
C'est ça, oui.
Elle a eu un traumatisme, un énorme traumatisme.
Ah ben, elle a vécu un énorme traumatisme, puisqu'effectivement, ses parents l'ont abandonnée, non pas à la naissance, mais elle avait 12 ans, et ses parents ont disparu volontairement de sa vie, et ils sont partis, quoi. Ce qu'on appelle une disparition volontaire, ils l'ont abandonnée, ils l'ont laissée là.
Bon, elle a eu un traumatisme, et elle s'en est sortie, parce qu'elle a retrouvé l'homme qui, dans son enfance, lui a porté de l'amour. Je crois que c'est le seul homme qui lui a porté de l'amour.
Oui, en fait, elle retrouve par hasard Jean, en fait, qui était un ami intime de ses parents, et qui était quelqu'un dont elle était très proche, et qui, effectivement, qui était le seul à lui donner l'impression d'exister. Elle avait l'impression qu'il était le seul à la voir vraiment. Il était le seul à se préoccuper vraiment d'elle, à être concerné par qui elle était. Et donc elle le retrouve en fait, elle le retrouve par hasard et elle cherche des réponses en fait. Elle en profite pour trouver des réponses.
Finalement, le traumatisme, bien sûr, nous blesse, mais si on veut le surmonter, ça nous impose d'accepter les réponses, d'accepter les aléas de la vie.
Bah, je crois qu'on peut surmonter. Enfin, c'est la proposition que je fais. Et qui, encore une fois, n'est pas une proposition théorique, mais qui se base sur mon propre parcours. Je crois qu'on peut guérir de tout, en fait. Je crois qu'on peut guérir de tout. La phase première et incontournable étant de ne plus se sentir victime, en fait, de ce qu'on a vécu.
De ne pas jouer à la victime, n'est-ce pas ?
Jouer, en fait, c'est qu'à un moment... Le trauma, la blessure, crée une souffrance. Donc, il est inévitable, à un moment donné, de se sentir victime des circonstances de la vie. C'est la première étape, c'est incontournable. On ne peut pas échapper à ça. Mais on ne peut pas guérir tant qu'on est dans cette posture-là. Tant qu'on est à cet endroit de victime, on ne peut pas avancer.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que votre personnage principal, il y a eu une cassure au moment où elle revoit cet homme après des années d'absence. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Parce qu'elle était très, très réservée, puis elle devient dévergondée.
Elle devient dévergondée, oui. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en retrouvant, en fait, ce personnage de son enfance, il y a des tas de choses qu'elle avait mis sous le tapis qui remontent malgré elle, en fait. Et du coup, elle vit effectivement une expérience où elle repasse, en fait, par l'émotion. Alors, en fait, elle recontacte, en fait, l'émotion qu'elle a rencontrée. Qu'elle a connue au moment où elle a compris que ses parents l'avaient abandonnée.
Alors dans ce roman, il y a un personnage qui n'est pas animé, qui a pourtant un grand rôle, c'est une maison. La maison qui se situe à Chevreuse. À Chevreuse, c'est dans la lointaine banlieue parisienne.
Oui, c'est ça, dans la vallée de Chevreuse, ouais, qui est très jolie. Ouais.
Alors racontez-nous cette maison qui a un rôle capital finalement.
Cette maison, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où tout le monde se retrouve, c'est un endroit de racine, c'est un endroit où on se pose et où on se dépose. Je crois que les lieux sont importants, enfin certains lieux sont importants effectivement parce que ils sont témoins d'expériences de vie. Si on fait le lien avec l'énergie, le domaine de l'énergie dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on vit dans un lieu laisse une trace en fait, toujours, il y a toujours une trace énergétique. Et donc ce lieu conserve en fait, ça conserve le souvenir.
La trace, c'est le souvenir de ce lieu, comme le phénomène de Proust, la Madeleine. Quand on a le souvenir, on retrouve toutes nos sensations, toutes nos émotions.
Oui, alors la Madeleine de Proust fonctionne comme ça. Mais en fait, moi, ce que je défends dans mon livre, et c'est un thème qui revient à plusieurs reprises, c'est qu'en fait, tout est en nous en fait. C'est que le temps n'existe pas. On parle du souvenir, on parle des traces que la vie a laissées en nous, mais en fait tout est toujours là. Je dis dans mon livre toujours conjugué au présent parce qu'en fait dans le domaine émotionnel le temps n'existe pas. Une émotion elle s'émousse pas. Enfin une émotion qui a vraiment compté, une émotion qui vraiment nous a impacté, qui est là encore logée dans nos cellules. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas.
Le souvenir qui nous marque le plus est ineffaçable.
Tout à fait.
Parce que c'est le problème de la conscience finalement. La conscience au sens d'exister.
Oui, et puis je reviens toujours à cette dimension énergétique, c'est qu'en fait, ça laisse des traces énergétiques certes, mais qui sont finalement physiques dans nos cellules se souviennent de ce qui s'est passé. Nos cellules se souviennent de ce qu'on a ressenti, c'est inscrit, c'est engrammé dans nos cellules. Donc c'est là tout le temps.
Ce livre vous a apporté quoi ?
une grande joie. Une très, très, très grande joie.
Parce qu'il y a du travail quand même. C'est assez épais, c'est bien écrit. On sent que c'est pas sorti d'une jet de plume. Et après, ça a été une libération.
Les deux parties se sont écrites très différemment. La première partie, c'est écrite quasiment en écriture automatique, je vais être très honnête. Hein. Ça coulait tout seul, ça me réveillait la nuit, je découvrais l'histoire à mesure que je l'écrivais. C'est exactement comme ça qu'il s'est écrit.
On dit qu'on est inspiré par une muse, mais c'est quoi? Elle est intérieure.
Oui, elle est intérieure, oui. Elle est intérieure.
Parce qu'on n'a pas fait le tour de nos ressources.
Non, et puis je crois qu'avec le recul maintenant, puisque ça fait déjà quelques années que ce livre a été écrit, je continue en fait à m'y retrouver, à retrouver des parts de moi dans ce livre que j'avais même pas vu, que j'avais pas encore vu. Donc je crois que la muse, ben, ça a été certainement tous ces espaces intérieurs là qui avaient envie de se raconter, pas à travers mon histoire à moi, parce que mon histoire à moi c'était pas l'objet, mais à travers une histoire, quoi.
Vous êtes livré de manière inconsciente, vous pensez?
Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu le constat que je fais, oui, tout à fait. Tout à fait.
Merci beaucoup, Laurence Glevieille. Merci.
Merci à vous.